Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je reste sur le grand sujet du jour, à savoir la retraite. Dans cette chronique, on a déjà parlé de la pénibilité, on a parlé du financement, on a parlé de la retraite pour les femmes, pour démonter un certain nombre d'arguments foireux pour finalement nous faire passer l'idée qu'il fallait travailler plus longtemps, en réalité pas travailler plus longtemps puisqu'on n'en est pas capable, mais rendre finalement ce droit à la retraite de plus en plus inaccessible, puisque je l'ai déjà expliqué, déjà à 62 ans, la majorité de notre population ne va pas à la retraite à 62 ans. Et évidemment, ce serait pire à 64, donc un droit virtuel à la retraite qui fait qu'il y aurait une incitation à trouver des formules alternatives et de se diriger vers la capitalisation, en tout cas pour ceux qui le peuvent, et à la grande misère pour les autres. Alors c'est facile à deviner puisque c'est déjà ce qui se passe dans pas mal de pays dans le monde. Alors cette fois-ci, je prends un créneau différent. Je prends le créneau d'expliquer ce qui s'est passé sur le plan politique, en particulier au Parlement ces jours-ci, et le rôle du Parlement et comment ça aurait dû se passer. Alors, tout d'abord, il faut revenir dans une démocratie sur la volonté du peuple. Alors, la volonté du peuple, il est incontestable dans tous les sondages, sans exception, d'ailleurs ce n'est pas nié, que la grande majorité des Français est contre l'allongement de 2 ans de plus pour obtenir un droit à la retraite. Il y a toute une série de sondages qui vont tous dans le même sens, une très grande majorité, je vais en citer qu'un seul. En ce qui concerne un sondage sur les salariés qui sont aujourd'hui en activité, il y en a seulement 7% qui sont pour le passage à 64 ans et 93% qui sont contre. Alors c'est un sondage qui est parlant et je dirais que les autres de toute façon vont dans le même sens. Voilà pour ce qui est de la volonté du peuple, et d'ailleurs même les macroniens n'osent pas dire que ces sondages ne reflèteraient pas la réalité. Alors, puisqu'on parle de volonté du peuple, quel est le rôle du Parlement dans une démocratie et en particulier des députés? Eh bien, le rôle des députés, c'est de faire passer la volonté du peuple dans la loi. Ce sont les législateurs, c'est eux qui décident de la loi, en tout cas en théorie. Et ces lois qui sont donc votées doivent correspondre à la volonté du peuple, ça paraît évident. Mais dans cette période pour le moins originale, c'est bien de le rappeler. Alors il y a eu toute une série de manœuvres pour contourner précisément cette volonté du peuple. Je vais en citer 2 en particulier. Manœuvres. D'abord, la première a été d'utiliser un article pour voter dans l'urgence, l'article 47.1 de notre Constitution, qui réduit considérablement les délais du travail des parlementaires au prétexte, puisque cet article est fait pour ça, il est fait pour voter le budget de la sécurité sociale de l'année en cours a priori, donc il faut aller évidemment vite, donc ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou PLFSS, vous en avez peut-être entendu parler, qui, compte tenu du fait que c'est le budget immédiat à voter, réduit l'ensemble finalement du processus de vote tant des sénateurs que des députés ensemble, enfin des députés et des sénateurs qui doivent finalement finaliser et voter la loi, eh bien, à un délai de 50 jours, tout compris. Et donc, Le gouvernement a décidé d'utiliser l'article 47.1 comme s'il s'agissait seulement, finalement, d'un projet de budget de la sécurité sociale. Et tout le monde a bien compris devant l'importance du sujet qu'il ne s'agissait pas bêtement d'un projet de loi de financement de la Sécu pour l'année en cours, mais simplement d'une quelque part une petite révolution, puisque c'est un recul social et politique considérable et qui touche la quasi-totalité de notre population. Donc ce projet de loi géré dans l'urgence avec un article qui n'est pas fait pour ça, ça a été la première manœuvre. La deuxième manœuvre a été à la dernière minute, hein, à quelques minutes du vote, de supprimer le vote des députés. Donc ça s'est passé jeudi après-midi, quand Macron et Borne, en faisant les comptes, se sont aperçus qu'ils n'auraient pas la majorité pour voter leur loi. Donc à la dernière minute, le gouvernement a décidé de supprimer le vote à l'Assemblée, donc ça vous le savez tous, en utilisant le fameux article 49.3 de la Constitution, et donc de fouler aux pieds cette volonté du peuple. J'insiste, puisque en fin de compte, c'est quand même bien ce qu'on demande à nos députés. Alors cet article 49.3 qui prévoit que le gouvernement engage sa responsabilité, il n'a pas été fait pour ça. Le gouvernement peut engager sa responsabilité, mais pas dans le contexte de voter une loi dont les Français ne veulent pas. Il a été fait à l'origine pour évacuer en quelque sorte des désaccords entre les différents groupes parlementaires et un certain cacophonie qui pourrait exister au niveau du Parlement. Alors ça, on peut le comprendre, mais ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on l'utilise alors que l'on sait que la majorité des députés, en l'occurrence, et de la population par-dessus, ne voulait pas de cette retraite à 64 ans. Donc ça, cet article 49.3, c'est en quelque sorte un abus d'utilisation, puisque une loi, en théorie, ne peut pas intéresser qu'une minorité de la population. Alors, il faut dire aussi que cet article 49.3, d'ailleurs, plusieurs groupes politiques réclament sa suppression de la Constitution, compte tenu que finalement, son utilisation est largement dévoyée. Donc voilà ce que je voulais dire sur le plan politique de ce qui s'est passé. Sur la suite, eh bien, sur le plan strictement politique, il y a plusieurs suites de plusieurs ordres. La première, dès lundi, c'est l'hypothèse de l'adoption par vote des députés d'une motion de censure qui serait donc votée par une majorité et qui aurait pour effet de faire tomber l'actuel gouvernement, donc qui devrait être changé et qui devrait être remplacé. Logiquement, l'adoption d'une motion de censure devrait aussi enterrer donc cette loi. Alors une motion de censure très hypothétique, compte tenu du fait qu'il faut une majorité absolue pour la voter et qu'on ne sait pas si les candidats, enfin les élus LR, iraient jusque-là. Mais je vous la donne en hypothèse. On n'est pas du tout certain, à l'heure où je vous parle, qu'elle aura lieu avec un vote majoritaire. Mais c'est une hypothèse à cet instant. Autre hypothèse, c'est la saisie du Conseil constitutionnel qui a pour mission de s'assurer que les lois qui sont votées sont conformes à notre Constitution. Alors là aussi, personne ne lit à 7 heures dans le marc de café. Est-ce que le Conseil constitutionnel ira jusqu'à dire que l'utilisation de l'article 47.1 dont j'ai parlé et de l'article 49.3 dont j'ai parlé aussi sont abusifs et rendent donc par conséquent l'adoption de l'allongement de la retraite à 64 ans de cette loi finalement anticonstitutionnelle. on le verra, c'est pas facile de le dire aujourd'hui. Alors il y a également une troisième hypothèse, mais celle-ci ne dépend que du président de la République. Au stade où on en est, c'est-à-dire une véritable crise, hein, puisque vous avez pu le voir et le mesurer dans les différents médias, eh bien, l'hypothèse de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la nécessité de retourner aux urnes pour élire de nouveaux députés. C'est une hypothèse. Elle dépend du président de la République qui, on l'a bien compris, s'il y avait des élections aujourd'hui, risquerait fort de prendre une claque parmi son actuel groupe politique et ses députés Renaissance d'aujourd'hui. Donc il est peu probable, mais en tout cas on ne peut pas affirmer dans un sens ou dans un autre qu'il n'y aura pas dissolution de l'Assemblée nationale si le pays devient véritablement ingouvernable, ce qui semble être le cas. Alors il y a une autre initiative qui est dans les tiroirs, ça a été évoqué par plusieurs groupes politiques au soir de finalement ce passage en force du 49-3, c'est la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée qu'on appelle aussi le RIP. Alors c'est une nouvelle loi, enfin une loi qui date de 2008 maintenant, mais qui n'a jamais encore été totalement mise en œuvre. Elle a démarré, elle a été utilisée en partie par rapport à la privatisation des aéroports de Paris, je ne sais pas si vous en souvenez. Et finalement, le gouvernement, quand il a vu à l'époque qu'elle risquait finalement bien de déboucher, a retiré de lui-même ce projet de privatisation des aéroports. Donc on peut dire qu'elle a déjà été à moitié utilisée, même si elle n'a pas été à son terme. Alors, un référendum d'initiative partagée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un référendum organisé officiellement, donc ça c'est une chose, mais pour faire passer ce référendum officiel, il faut avant tout, c'est la première étape, qu'il soit exigé ce référendum par 10% de la population d'électeurs, ce qui correspond à 4,7 millions de demandeurs. Donc d'abord d'organiser une pétition, et si cette pétition rassemble 4,7 millions de signataires, le gouvernement est obligé de mettre en œuvre officiellement un référendum qui tranchera sur oui ou non 64 ans. Donc vous l'avez compris, une première étape de recueil de 4,7 millions de signatures. Alors ça prend du temps, et l'un des inconvénients finalement de cette solution politique, c'est le temps qui passe. Donc il ne faudrait pas, si ça se décide, de croiser les bras en attendant finalement le résultat hypothétique du référendum, de perdre des mois et des mois en attente, alors que ce qui compte aujourd'hui, c'est le rapport de force aussi. Donc, peut-être une bonne initiative, mais certainement pas s'il s'agit finalement d'oublier la rue et d'oublier les mobilisations dans les entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire sur le plan politique, et maintenant j'en arrive à la démocratie sociale, puisque vous le savez, celle-ci a été largement méprisée par le président Macron, puisque toutes les organisations syndicales ont demandé à être reçues ensemble et en urgence compte tenu de la situation par le président de la République qui a refusé. Donc un mépris de cette démocratie sociale qui est à souligner, et je dirais qu'elle est dans l'air du temps. Donc pour terminer, ce qu'il faut dire avant tout aussi, c'est que dans tous les cas, le monde du travail à toutes époques, pour ce qui concerne non-conquête sociale, doit agir par lui-même et sans attendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un nouvel appel jeudi soir de l'ensemble des organisations syndicales à poursuivre, mais aussi à amplifier les luttes dans les secteurs où ce n'était pas encore le cas, en particulier avec un temps fort jeudi 23 mars dans tout le pays. Mais pas seulement jeudi, je me répète un peu, dans toutes les entreprises en élargissant les luttes bien avant jeudi 23 mars. Voilà ce que je voulais vous dire sur la situation politique et sociale du moment. Et je vous dis à bientôt. Il est fort probable que nous ayons à en reparler puisque c'est une situation à la fois exceptionnelle et extraordinaire. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.